Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Salut à tous, c'est Génération After sur RMC comme tous les soirs de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Jennifer Mendelevitch est là également ce soir, agent de joueur. Salut Jen.
Bonsoir à tous.
Je t'appelle Jen maintenant, ouais, ça y est, 5 émissions.
Tout le monde m'appelle Jen.
Grosse familiarité.
Ça y est, je...
Kevin Diaz est avec nous, salut KD.
Salut à tous.
Tout va bien?
Ça va et toi?
T'as bien bossé cette semaine, la montée? C'est raté.
La montée, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, donc c'est mort en fait quand on les est compliqués.
Prépare l'avenir.
Bien. Par l'avenir. Il est bon, très bon communicant.
Heureusement qu'il y a eu un changement de coach cette saison de la part du directeur sportif.
Tu as des problèmes. J'ai pas oublié que le premier coach nous a aidé à bâtir cet effectif.
On peut le dire. Hein.
Aujourd'hui, on en a
un joueur de Ligue 1. Hein.
Ouais. Nouveau.
Non, de Ligue 2. De Ligue 2 et un petit peu de Ligue 1 aussi à Auxerre. Elder Estévez.
Le précédent, c'était?
C'était Mohamed Tazamouche.
C'est ça. Bon, et ce soir avec nous dans Génération After, on est heureux d'accueillir Habib Bey. Salut Habib.
Bonsoir à tous.
Heureux de te recevoir. Tu connais la maison, tu as fait un passage remarqué mais fulgurant il y a quelques années.
Oui, avec Gilbert.
Avec Gilbert qui est à nos côtés.
Il m'a formé.
Il t'a formé?
Ouais.
Oh, d'exagérant.
Formation accélérée quand même. Hein.
J'avoue qu'avec Daniel, il suffisait d'allumer les micros, ça partait tout seul.
C'est vrai.
Ah, ça se passait bien avec Daniel?
C'était magnifique.
Ah, deux amis croisés en confrontation en général.
Et pourquoi t'es pas resté alors?
Hein?
Pourquoi t'es pas resté?
Écoute, à un moment donné.
La loi du marché, la loi du marché.
Si ça marchait bien, si ça marchait si bien.
T'es content de te recevoir, vas-y Gilbert.
À la fin de sa carrière, la porte est ouverte.
Ah oui.
À la fin de sa carrière, elle est longue, elle sera longue encore sa carrière d'entraîneur.
On sera tous à la retraite.
On reçoit Habib, l'entraîneur du Red Star, promu le week-end dernier. Bravo pour le boulot. 3 ans de taf acharné et l'aboutissement d'une montée en Ligue 2. Tu sais qu'on n'a jamais autant parlé d'un club de national dans l'after.
Mais c'est,
est-ce que tu sais pourquoi?
Oui, je sais pourquoi, parce que Walid vient au match tout le temps. Il a quelques petits chouchous dans mon équipe. Et c'est surtout que, encore une fois, je pense qu'il aime tellement de foot, il regarde beaucoup de foot, mais le voir à Boer à chaque fois le vendredi, ou même le lundi de temps en temps, même si ça a été peu fréquent cette saison, c'est toujours un plaisir.
Et puis le Red Star, c'est
uniquement à Boer.
Uniquement à Boer, le Red Star.
On vous a matraqué un peu, mais ça va quand même, il y a des résultats derrière.
Oui, des résultats. Ouais,
non, on n'a pas parlé pour rien du tout.
Pour les gens qui sont en province, il y en a quand même, ou dans le monde entier, faut quand même savoir que le Red Star, c'est un club particulier.
C'est un club mythique, un club historique, on en parle, connu dans le monde entier. Hein.
En tout cas, en Ile-de-France.
C'est 5 Coupes de France.
Eh oui, 5 Coupes de France. Ouais.
En tout cas, en Ile-de-France, que t'aies joué contre le Red Star, que t'aies joué à Boer. Moi, j'ai joué à Boer souvent dans l'ancien Boer. Hein, mais pour le coup, c'est toujours un club et un endroit particulier dans le football parisien. En tout cas, tous les joueurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas le Red Star. Alors peut-être il y a un derby, je connais pas le derby à côté,
oui,
mais en tout cas c'est pas un club où il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'animosité, au contraire, c'est un club où il y a beaucoup de sympathie.
Quand tu vas au stade, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose.
C'est surtout qu'on a souvent stigmatisé le département du 93, et je pense que le Red Star participe en tout cas au rayonnement de la ville, mais également du département, parce qu'il y a énormément de ressources. Le vivier est presque.
C'est un des plus gros viviers de France.
C'est un gros vivier, l'un des plus gros viviers de France. Il y a des joueurs extraordinaires, des jeunes joueurs, et il y a plein de choses à faire. Il y a les Jeux Olympiques là qui sont là dans peu de temps, et donc il y a développement des infrastructures. Il y a plein de choses autour de cette ville et ce département qui sont assez.
Mais il y a un nouveau public aussi, parce que moi je me souviens quand j'étais petite, c'était pas du tout le même genre de gens qui venaient à Boer. Maintenant c'est devenu pratiquement une sortie à la mode pour les bobos parisiens.
Et pas que. Pas que.
Oui, mais ils n'étaient pas là avant.
Ouais. T'as raison, il y a un vrai brassage, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de Stan Smith et autres à Boer maintenant.
Et pas que des Stan Smith. des New Balance.
New Balance aussi.
Walid n'est jamais assis. À chaque fois que je me retourne et que je le regarde, il est toujours debout.
Non, mais Walid, moi, je suis venu il y a deux mois avec Walid. Ouais. Le spectacle était à la fois sur le terrain et en tribune aussi. Toutes les deux minutes, des gens faisaient la queue pour aller saluer Walid Acherchour.
Ah, abuse pas non plus.
Le mieux, c'est la remarque d'un supporter qui a dit: Walid, j'ai adoré tes stories en Thaïlande.
Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que je me dis.
C'est vrai que viens pour lui dire ça. J'adore tes stories. En fait, pas génération à faire tes stories en Thaïlande.
C'est un influenceur, en fait.
Tu vois, c'est ça ton problème, Kevin. Non, mais je lui dis mes analyses. Il m'a dit non, très bien aussi.
Très bien aussi, t'as raison. Bon, t'es avec nous, Habib, pendant ce Génération After. On va parler également ce soir avec Kevin. Kevin qui veut développer un avis sur Pierre-Emerick Aubameyang. Tu veux lui rendre hommage ce soir, a-t-il fait oublier Alexis Sanchez à l'OM. Avis de Walid également à venir. Après le match de Mbappé hier à Lorient, avis intitulé « Ça c'est mon Kylian, ça c'est mon Mbappé ». Il nous dira pourquoi, ça va surprendre certains. Et puis le quiz de l'after, comme tous les jeudis soirs, à partir de 21h45. Hein, d'ailleurs, si vous voulez participer pour gagner un bomber shot, faites le 732-16 par SMS, vous envoyez quiz et vous pourrez participer avec une des deux équipes ce soir dans Génération After.
Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Et puis à 22h, l'after avec Gilbert.
Avec ce soir Daniel Riolo, Stéphane Guy, ils seront là tout à l'heure. On va parler arbitrage, on va faire le point sur le bordel complet dans l'arbitrage en Ligue 1. Révélation également ce soir sur le centre de formation du PSG. Parce qu'il se passe, il en passe de drôle au centre de formation du PSG. On vous racontera ça tout à l'heure. Et puis Willy Sagnol sera avec nous un peu plus tard, vers 23h, sélectionneur de la Géorgie. Qualifié pour l'Euro, Willy, qui faisait partie de l'équipe d'RMC il y a quelques temps. On est ravis pour lui. Il nous racontera l'aventure tout à l'heure. Et puis on ira faire un tour en Italie, voir comment se porte l'Atalanta Bergame avant le match contre l'OM, puisque l'Atalanta jouait hier soir et s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Des news également de Xavi qui finalement reste à Barcelone. Voilà, un club où Habib ne pourra pas aller tout de suite, il faudra attendre un petit peu. Et donc on fera le point.
Vous n'aurez pas pu le payer de toute façon.
On fera le point tout à l'heure, voilà, peut-être. Et puis Bauer, c'est aussi un stade mythique pour l'after, parce qu'on a fait un match de l'after de légende.
Bien sûr.
À Bauer il y a quelques années.
C'est vrai.
On a relancé Lionel Charbonnier.
J'y étais.
Oui, bien sûr. Il y avait Habib.
J'étais pas encore dans la famille.
Il y avait un casting de fou. Mais on avait fait jouer au foot Christophe Dugarry quand même. Je crois que c'est la dernière fois qu'il a joué au foot.
Il n'y avait pas Pierre Ducrot au milieu, je crois.
Il y avait Pierre Ducrot, bien sûr. Il y avait Lionel Charbonnier dans les buts. Mendy, ça s'était terminé au tir au but.
Il y avait Bernard Mendy, non ?
Il y avait Bernard Mendy.
Non, il n'y avait pas Bernard Mendy.
Il y avait Mickaël Siani.
Il y avait Mickaël Siani. Il y avait Aubragnac.
Et il y avait Kevin Diaz, bien sûr, qui avait brillé mille feux.
C'est pas le lieu du drame, Riolo qui tire un penalty.
Non, Daniel. Il était coach,
C'est la Panenka ratée de Simone Rovera face à Lionel Charbonnier.
Extraordinaire.
Et Lionel qui veut lui mettre une baffe, genre, tu m'as pas respecté.
C'était magique. À 22h, vous nous appelez, le 32-16 est ouvert, le standard. Max, Adrien sont là pour poser vos questions à Habib. N'hésitez pas, même supporter du Restart, bien sûr, et pas que. Et puis la chaîne YouTube de l'After, vous savez, on en direct, vos commentaires également envoyés dans le chat de la chaîne. Bon, alors Habib, t'as connu des grands moments dans ta carrière, finale de Coupe d'Europe, Marseille, Strasbourg, l'Angleterre bien sûr aussi. Quelle saveur elle a cette montée avec le Restart vendredi soir? Comment, je vais pas te faire une hiérarchie, évidemment c'est très différent, ton rôle est différent, mais en termes d'émotion, d'intensité?
Ouais, ça a un petit peu plus de poids, parce que lorsque vous êtes l'entraîneur d'une équipe comme le Restart, mais lorsque vous êtes entraîneur en général, vous avez l'impression que la responsabilité d'une montée et d'un projet comme le nôtre repose sur vos épaules. Et comme on a vécu un vrai drame l'an passé, c'est-à-dire de ne pas monter, d'être 20 minutes en Ligue 2 et de ne pas monter à la dernière journée, j'avais l'impression aussi d'avoir un petit peu laissé tomber certaines personnes. On a toujours ce sentiment-là, même si la réalité aujourd'hui d'une non-montée n'incombe pas seulement à l'entraîneur, mais cette responsabilité-là qu'on m'avait donnée dans le projet dans lequel on était lancé a été très difficile à accepter l'an passé. On est reparti et donc cette saison, on avait vraiment envie d'aller chercher cet objectif-là, de monter en Ligue 2. Et donc forcément, la satisfaction, elle est pas que pour moi, elle est aussi pour mon staff, pour tous les gens qui travaillent au club, de voir tous ces gens, après le match, être sur le terrain et de se dire, on va enfin vivre la Ligue 2 à Bauer. Parce qu'en fait, la réalité de ce club, c'est qu'il a fait l'ascenseur, mais jamais dans son stade. Ils sont allés à Beauvais, ils étaient à Jean-Bouin. Et donc, il n'y a jamais eu une réelle identité sur le très haut niveau. Là, maintenant, le club est en développement, le club commence à se structurer, le stade se développe, l'équipe se développe, les investisseurs sont arrivés et on a l'impression que c'est le meilleur moment pour le Red Star pour arriver en Ligue 2 et avoir participé à cette logique-là. C'est une énorme satisfaction pour mon staff et pour moi, parce qu'on parle souvent de moi, on met en avant, mais j'ai un staff qui bosse de façon assez exceptionnelle à mes côtés et c'est la réussite de tout ce staff et surtout des joueurs, parce que ce sont eux le moteur. Et il faut surtout pas leur enlever cette saison exceptionnelle qu'ils ont réalisée.
Et le directeur sportif également, Reda Hamash, hein, qui est arrivé en 2022.
Oui, il y a Reda, il y a toute la cellule de recrutement avec Kevin Desport, avec Steve Marley. Et donc tout ce travail a été fait en cohérence et c'est vrai que c'est la juste récompense de tout le travail qui a été mis en place depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans.
C'est ça, exactement. T'as dit, quand t'as pris l'équipe, j'aurais une vieille interview dans Le Parisien, je savais, j'étais convaincu, j'étais fait pour entraîner. Comment ça on arrive à le percevoir chez soi? C'est au moment où tu prends une équipe que tu le sens ou tu le savais déjà avant que tu étais joueur?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape du capitanat en club, qui vous amène à avoir d'autres responsabilités, d'être un petit peu plus dans la responsabilité de d'identifier tout ce que vous vivez en tant que joueur avec votre équipe, d'être le relais aussi des entraîneurs. Et à ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez envie de comprendre ce que l'entraîneur veut mettre en place, parce que vous allez être ce relais-là sur le terrain. Et quand je deviens capitaine à l'OM, cette responsabilité, elle devient très présente en moi de comprendre en fait ce que veut mon entraîneur, là où moi, je n'étais juste qu'un acteur du jeu. Et quand je suis devenu capitaine, bizarrement, il y a eu ce premier clic où je me suis dit, là maintenant, il va falloir que tu prennes d'autres responsabilités. Mmh. Et quand tu vis ça en club, mais je l'ai vécu aussi en sélection, et puis ensuite, bah, je suis parti en Angleterre, j'ai découvert un football qui m'a renversé en fait psychologiquement. C'est-à-dire et qui aujourd'hui m'influence pas. Quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, pas que j'ai perdu en quelque sorte 9 ans de ma vie, mais pour moi, la psychologie des Anglais dans l'approche de la compétition, dans l'approche de l'entraînement, est exceptionnelle. Et l'intensité que j'ai connue là-bas, c'est là où je me suis dit, waouh, je me serais régalé ici à l'âge de 20 ans. Après, vous avez le parcours que vous avez, mais vraiment, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, c'est ce spectacle-là que je veux vivre, c'est cette intensité-là que je veux vivre, c'est ce professionnalisme que je veux vivre.
L'intensité à l'entraînement, en match, ouais, tous les jours.
Cette ambition-là, en fait, et aujourd'hui, quand j'ai pris le Red Star, j'ai dit à mon préparateur physique et à mon responsable de la performance, il y a une chose que je vais te demander. Ce qui m'intéresse, c'est intensité, 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 intensité. Je lui ai dit 4 fois parce qu'on a 4 jours d'entraînement. Et je lui ai dit parce que pour moi, c'est ce que j'ai vécu en Angleterre et c'est possible. Et aujourd'hui, de penser qu'il est impossible de s'entraîner à haute intensité tous les jours, pour moi, c'est une erreur. Et donc, j'ai vécu ça en Angleterre et je me suis dit, en tant qu'entraîneur, je veux mettre ça en place. Et
ce qui est fort chez les Anglais, je t'ai déjà entendu en parler, mais j'ai aussi entendu Samir Nasri notamment et pas mal de joueurs qui sont passés en Angleterre. C'est-à-dire que bon, moi j'ai joué aux Pays-Bas et c'est pas la même intensité du tout parce que c'est beaucoup plus technique que dans l'intensité et dans l'impact physique. Mais il y a une décontraction aussi, par exemple le jour du match,
ouais, complètement.
Où t'as rendez-vous 1h30 avant le match.
Ouais, exactement.
Alors qu'en France, on est dans des carcans des fois. Et on en parlera un petit peu après, parce qu'on fait pas tout mal, on fait aussi plein de choses bien. Mais ce qui est très fort chez les Anglais, c'est qu'ils arrivent à avoir une intensité extrême aux entraînements et aux matchs, mais une décontraction, notamment dans le vestiaire, que ce soit avec la musique, que ce soit avec les horaires ou la non-mise au vert. Et c'est le switch qu'ils arrivent à faire. Ok, je sors de ma voiture, je rentre dans le stade, je suis plus un civil, je suis un warrior. Tu vois, ouais. Ça, c'est très fort.
Mais tu dis quelque chose de très important, c'est qu'il faut pas essayer de définir ce qui se fait de bien et ce qui se fait de mal.
Exactement.
C'est pas mieux en Angleterre qu'en France. C'est une culture, en fait. Ils sont éduqués.
Mais tu peux t'associer à ce que, parce que toi, tu as dit, quand tu es arrivé en Angleterre, moi, j'ai dit, moi, c'est ce que, et souvent, moi, je le dis dans l'after, on me dit, ah, ça va, il exagère avec ses Pays-Bas. Mais en fait, quand t'as vécu un truc qui t'a marqué profondément.
Oui.
Comme joueur, mais surtout, comme personne, comme être humain, tu te dis, ah ouais. C'est ce football-là que j'aime.
C'est une rencontre, en fait.
À moi.
Ça peut correspondait.
En fait, c'est une rencontre avec ce qui te procure le plus de plaisir. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est que aujourd'hui, quand tu es un joueur et que tu entraînes un joueur ou quand tu entraînes une équipe, la première chose que tu dois regarder, c'est quelle est la qualité intrinsèque de ton joueur, quelle est la qualité de ton équipe. C'est-à-dire le talent combiné de chaque élément de ton effectif. Et après, toi, il faut que tu sois en capacité de générer au quotidien cette fibre-là. Le plaisir. Il faut que tu travailles avec la qualité intrinsèque de ton groupe. Et là où les Anglais sont très bons, et je trouve très bons, et je dis pas qu'on n'est pas bon en France là-dessus, c'est qu'ils viennent chercher le côté pur, en fait, du joueur et du plaisir que le joueur doit ressentir, en fait, au quotidien pour qu'il s'exprime le week-end. Et c'est ça qui est assez, c'est difficilement perceptible, mais c'est un ressenti que j'ai eu, moi, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis dit, en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est aller chercher le côté pur de ce que je suis en tant que joueur. J'étais pas un talentueux, j'étais un besogneux. Mais par contre, j'ai vécu une intensité là-bas et un plaisir de jouer dans cette intensité qui m'a un jour dit, si j'entraîne, c'est comme ça que je veux que mon groupe soit entraîné. Je veux comme ça que moi, je veux que mon groupe vive au quotidien. Et on a mis ça en place dès qu'on est arrivé.
Et je pense que les joueurs
ont adhéré. J'ai un responsable de la performance qui m'a dit, ouf, il faudra qu'on y aille doucement, de façon en palier.
Progressive.
Et en fait, je lui ai dit, et il le sait, je rigole maintenant, mais je lui ai dit, tu sais, Randy, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je lui dis, il faudra qu'on passe par là et il faudra que tu sois en capacité de me dire le moment où on est à la ligne rouge. Mais moi, je vais les emmener là-dedans. Et en fait, on l'a fait de façon très intelligente. On ne l'a pas fait du jour au lendemain. Et on a amené les joueurs dans quelque chose où ils prennent énormément de plaisir. Et je pense que ce qui a aussi permis la progression de cette équipe dans le temps, parce que, encore une fois, je le dis, j'ai des très bons joueurs et on m'a donné le temps de travailler. Parce que ça fait quand même presque 3 ans que j'ai ce projet-là. Et je pense que c'est aussi la réussite du staff qu'on a aujourd'hui, de l'entraîneur que je suis, mais également des joueurs et du club.
Après, Jennifer.
Ouais, c'est là où je pense que le recrutement est super important, parce que quand t'as cette idée de départ, tu vas faire ton recrutement en fonction, et c'est pas quelque chose qui est faisable pour tous les joueurs. T'as des joueurs qui vont pas du tout être dans ce projet, et t'as des joueurs qui ont pas envie de se faire mal, qui jouent sur leur qualité propre. Et je pense que quand t'es dans des projets comme ça, il faut vraiment anticiper et travailler limite sur les profils. Limite plus psychologique que les qualités de joueur, pour te dire est-ce qu'il va supporter ça,
est-ce que
c'est quelque chose auquel il va être sensible et accessible, parce que ça demande aussi des joueurs intelligents. Il faut qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils comprennent que c'est un chemin de long terme, que les débuts peuvent être un peu compliqués. Il faut qu'ils acceptent de perdre parfois au départ, et tout le monde le comprend pas en fait. Et c'est à ce moment-là que la relation coach et cellule de recrutement elle est hyper importante.
Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'intensité, mais après, moi, en tout cas, ce que j'ai perçu chez le Red Star sur les deux dernières saisons et encore plus cette saison, c'est qu'au-delà de l'intensité, il y a des idées de jeu. C'est-à-dire que tu peux pas mettre que de l'intensité bête et méchante sans apporter encore une fois une variation dans le jeu, dans les sorties de balles, dans cette volonté d'aller être impactant dans la partie adverse. Et moi, c'est ce que j'ai vu du côté du Red Star cette saison.
Parce que souvent, la Ligue nationale, ça s'appelle être bourrin.
Oui,
sur des capacités physiques, sur l'agressivité, on va monter en Ligue 2, c'est pas un problème.
Moi, Habib le sait, notamment l'année dernière, je voyais des choses que je ne vois pas cette année, et je l'ai beaucoup, j'ai pas critiqué, mais en tout cas, on a eu beaucoup de discussions là-dessus où je trouvais.
Si t'as critiqué.
Oui, non, enfin, c'est des critiques constructives, mais en tout cas, on a eu des échanges par rapport à ça, que ce soit par ses choix ou. J'ai vu une différence entre l'année dernière et cette année. C'est-à-dire que cette année, il a mis en place un système de jeu en 3-3-4, en 3-2-4-1, pardon, où en fait les pistons étaient des ailiers qui allaient chercher très très haut. Et c'est quelque chose de très audacieux en national. Parce que beaucoup disent, oui, mais tu peux pas jouer comme ça en national, tu peux pas laisser des espaces dans ton dos. Et c'est quelque chose qu'il a fait. Alors c'était un peu plus prévisible en deuxième partie de saison où c'était compliqué. Mais sur la première partie de saison, c'est ce qui te permet de gagner 7 fois d'affilée. Et ça, quand même, pour persuader ton groupe, il n'y a pas que de l'intensité. Il y a une faculté à pouvoir ressortir bas, d'essayer de faire passer un latéral au poste de milieu de terrain, de donner du plaisir aux joueurs. Si tu donnes uniquement de l'intensité, là, je rejoins Jen, c'est bien que sûr, psychologiquement, les
mecs. Mais attention, l'intensité, c'est pas forcément dans la logique de course, en fait. Oui. L'intensité, elle est avec le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait au quotidien, c'est 99,9% de ballon. Mes joueurs aujourd'hui, sur ce qu'ils ont vécu cette saison, je pense qu'ils ont dû faire 2-3 dissociés. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire deux trois courses sans ballon. Tout se fait avec ballon. Et c'est parce que c'est ce que j'ai connu aussi. Mais en France, c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai connu à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis beaucoup d'intensité avec ballon et que l'intensité, elle n'est pas juste sur une logique de ça court partout. C'est qu'on a projet de jeu qui a été audacieux cette saison, c'est une réalité, qui nous a permis de mettre en difficulté beaucoup d'équipes. Après, en deuxième partie de saison, on a été analysé, il a fallu qu'on bouge. Mais je pense que la saison de l'année dernière nous a permis aussi de nous adapter par rapport à la proposition. Et il y a une chose que tu as dit, c'est que quand je suis arrivé en national, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans et demi, on m'a dit, lui et son football romantique, on va lui montrer. Et il y avait une proportion d'équipes qui jouaient au foot qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Je me rappelle, j'ai pris l'équipe, il y avait peut-être 5-6 équipes qui avaient des projets de jeu bien identifiés, qui jouaient au sol, et il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient de long ballon. Là, on regarde aujourd'hui, avec les équipes qui ont fait Ligue 1, Ligue 2, National, je prends l'exemple de Nîmes, de Dijon, de Sochaux, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent au football. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, quand vous regardez des matchs de très haut niveau en national, et on l'a vécu, et je pense que Walid l'a vécu.
Martigues, Niort.
Vous regardez le Red Star Martigues, le Red Star Rouen, le Red Star Niort, c'est des matchs qui, pour moi, sont de la qualité d'un match de Ligue 2.
Concarneau l'année dernière.
Techniquement, ça devient très intéressant de regarder le national à travers les joueurs, mais à travers ce que proposent les entraîneurs.
Et c'est un championnat qui est très, très relevé.
Et puis en plus, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, c'est bien.
C'est vrai, t'as raison, anti-VAR, absolument. On va te poser la question ce soir, Habib. On a plein de questions d'autres à te poser, notamment sur ta vie de coach également. C'est intéressant d'avoir un coach ici. Julien Stéphane, on en avait parlé il y a quelques mois, justement. On dit que c'est un métier de fou. Tu vas nous dire pourquoi c'est un métier de fou, c'est d'accord avec ça aussi. Et puis ton avenir aussi qu'on va évoquer. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC avec Walid, Jennifer, Kevin et Habib Bey, notre invité sur RMC. Il est 20h20, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Louis Lacherchour, avec Kevin Diaz, avec Jennifer Medelevic et notre invité Habib Bey, entraîneur du Red Star, promu en Ligue 2. Beaucoup de réactions sur la chaîne YouTube de l'After. T'as Ismaïla Camara qui nous dit le Sénégal est fier de toi, Habib.
Merci voilà. Beaucoup,
notamment. Ouais, t'as 45 sélections avec le Sénégal.
Ouais, je suis
4 cannes.
Hein. Ouais, 4 cannes, je suis très fier de mon pays également. Et de tous les gens qui m'envoient des petits messages très sympas. Mais je suis fier aussi de toute l'Afrique parce que c'est. L'Afrique adore le football et vous écoute beaucoup aussi.
Oui.
Vraiment.
Ah oui, on était sur place pour la Coupe d'Afrique des Nations, on a adoré l'expérience et puis on nous a dit venez plus souvent. Et puis la CAN, bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, évolue aussi
oui,
de plus en plus quoi, en structure, en termes de niveau. Alors une question sur ton métier d'entraîneur, ça nous intéresse aussi de savoir comment tu construis une journée toi, hors jour de match.
Très très simple, j'arrive à 7h45 au bureau. Il y a, en général, je ne suis pas le premier. Il y a toujours Faouzi Hamza, l'entraîneur des gardiens, qui est déjà là. Il y avait déjà Pierre Sage qui était déjà là avant qu'il ne parte. Mais en général, j'arrive, ouais, 7h45. On a déjà préparé la séance la veille. Donc, toutes les séances du jour sont préparées la veille. Le jour J, ça n'est qu'une revue d'effectifs en fonction des joueurs qui sont disponibles ou pas. Mais sinon, après, tout est fait et tout est calé avant. On sait exactement ce qu'on veut sur la trame de semaine en termes de travail. Ensuite, on a l'entraînement à 11h. Les joueurs arrivent à 9h30. Ils ont le petit déjeuner. Nous, ça nous permet d'aller installer, de un petit peu regarder les derniers détails.
Le petit déjeuner, tu l'as instauré, ça.
Ouais.
Un petit déjeuner ensemble.
En fait, ils doivent être là avant 9h45. Ce qui est bien, c'est qu'on ne l'a pas rendu obligatoire, mais tous les joueurs sont là parce que c'est un moment qu'ils passent ensemble. Et je trouve que c'est aussi une préparation à l'entraînement qui est très importante. Et pour un club de national, donner cette opportunité-là aux joueurs, c'est un vrai luxe parce que financièrement, ça coûte. Et les budgets sont pas illimités sur ces aspects-là. Et ça, c'est une vraie chose qu'on a mis en place pour que les joueurs soient préparés au mieux pour l'entraînement. Et puis après, on s'entraîne à 11h et on reste à l'entraînement jusqu'à 18-19h. L'important, c'est que nous, on revoit toutes les séances avec la vidéo. Donc, on vit les séances. Les séances sont filmées drone et avec la speedo. Et derrière, on revoit toutes les séances, tout ce qu'on a travaillé sur les aspects tactiques et tout ce qu'on doit réguler sur le lendemain ou toutes les choses qui n'ont pas été acquises à travers ce qu'on travaille. Donc on essaye d'être le plus précis possible. En fait, quand on est arrivé, ce qu'on a demandé, c'est de ne pas être limité en termes de travail. C'est-à-dire que vous êtes limité parfois par les ressources parce que vous restez un club de national. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas s'interdire, c'est de travailler comme le très très haut niveau. Et moi, j'ai 8 personnes avec moi qui travaillent au quotidien. Et ça me permet de traiter beaucoup de choses dans ma journée, de me décharger aussi de certaines choses et de déléguer et d'être le plus précis possible dans l'accompagnement des joueurs dans la semaine d'entraînement.
Tu as choisi le métier d'entraîneur. Moi, quand je passais mes diplômes, j'étais avec pas mal d'anciens grands joueurs, notamment qui ont joué en équipe de France et tout. Et il y a un joueur qui m'a dit oh, moi, je vais pas faire entraîneur. Franchement, consultant, c'est le bon métier.
Et la planque.
Non, pas la planque, mais c'est le bon métier. Voilà, je me voyais pas entraîneur. Et quand on va pas se le cacher, quand t'as choisi le métier d'entraîneur, on s'est tous dit, et tu te l'es dit le premier, je pense. Waouh. Attention, parce que là,
je me suis vraiment pas dit.
Tu t'es pas dit, on va m'attendre au tournant.
Non, ça oui, mais ça, de toute façon.
C'est ce que je dis. Mais est-ce que,
on le savait.
Et ça, c'était ma question, donc tu viens de me répondre. Je me suis demandé, est-ce que tu t'es dit à un moment, est-ce que je vais rester bien au chaud? Parce que comme je dis souvent à Walid, nous, on fait le Yaka Faucon ici, c'est très facile. Mais quand t'es dans
un. Pas si facile que ça, Kevin, quand même.
Si, le Yaka Faucon, c'est très facile par rapport au métier d'entraîneur, qui est sûrement le métier de névrosé le plus compliqué dans le football, parce que c'est un métier, comme t'as dit, 24h sur 24, parce que là, tu fais du 7h, 17h, mais tu rentres chez toi, ça dure jusqu'à ce que tu t'endormes.
Ouais, peut-être
des fois.
Même au réveil le matin, je pense, une première pensée, c'est
ouais,
ça.
C'est quoi,
voilà. Donc voilà. Donc, est-ce que tu t'es dit, donc, à un moment, bon, je vais peut-être rester consultant tranquillement au chaud, plutôt que aller.
Non, pas du tout vraiment. Et en plus, en passant les diplômes en France, parce que j'avais l'opportunité de les passer à Cardiff et d'aller beaucoup plus vite dans le process de diplôme, je me suis dit c'est aussi une façon de montrer à tout le monde ma détermination et cette logique d'être presque, de dire ah, il s'est donné les moyens en France de passer tous les diplômes, BEF, TES,
pas facile,
TES,
pas facile
BEF.
De passer les diplômes
ouais,
en France.
J'ai passé, j'ai mis 4 ans à les avoir, puisqu'en fait, entre le DES et le BEPF, ils m'ont empêché d'enchaîner. On nous a dit non, on ne pouvait pas y aller cette année. Il y avait eu le Covid et donc ils avaient bloqué l'année d'après. Donc j'ai dû attendre un an pour pouvoir passer mon BEPF. Mais je ne me suis jamais dit non, c'est un métier de fou, parce que pour l'instant, et j'ai entendu ce que vous disiez de Julien Stéphan, pour moi, c'est ni un métier de névrosé, ni un métier de fou.
Un petit peu quand même.
Non, parce qu'en
dans
en
le
fait,
bon sens.
La réalité, c'est qu'en fait, tous les entraîneurs font ce métier par passion.
Ça, c'est sûr.
Et si tu fais ce métier par choix, je pense que c'est difficile de vivre toutes les émotions que représente ce métier. Oui, tu vis des choses qui sont une machine à laver parce qu'en fait, t'es dedans tout le temps. Tu te lèves, tu penses à ça. Tu te couches, tu penses à ça. Par moments, en pleine nuit, tu te réveilles, tu penses à ça.
Et puis, l'après-défaite aussi. Comment on vit ça? Les jours qui suivent. Parce après, que c'est long, c'est une semaine d'attente avant de pouvoir retravailler sur un match.
Après, Habib, t'as pas eu encore la machine médiatique?
Non. C'est-à-dire que. C'est une réalité.
Sur le métier de névrosé, notamment, je pense que ça en fait partie.
Mais il était quand même attendu au tournant.
Non, mais t'es attendu au tournant et par beaucoup. Mmh. Mais par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard, ou ce qui se passe pour un Julien Stéphan, ou
l'environnement médiatique, tout ça, bien sûr.
Quand il sera à Marseille, c'est sûr que ce sera autre chose.
Voilà, ou un Galtier l'année dernière, etc. Je pense que le côté névrosé et le côté pression fait aussi que.
Je peux même pas en parler parce que je l'ai pas vécu.
Attends, avec le micro de Jennifer, tiens, tu peux appuyer ton bouton Jennifer, vas-y. Vas-y. Non, faut que ce soit rouge. Voilà.
Ouais, c'est rouge. Ouais, non, je disais, ça fait partie complètement de la fonction d'entraîneur maintenant. Si t'es pas capable de gérer la pression médiatique quand t'es dans un grand club, t'as rien à faire là, en fait. Et c'est dommage, un petit peu, parce que la fonction communicant, elle prend de plus en plus de place, mais t'es obligé de l'intégrer dans ta préparation, dans ton plan de carrière aussi.
Dans l'idée, on aime tous ça. En fait, c'est-à-dire que l'aspect névrosé et l'aspect métier de fou,
très prenant.
Au fond, je pense que c'est une logique de quand tu vas te faire tatouer, au début ça fait mal et puis en fait après tu t'habitues à la douleur de l'aiguille et en fait t'as envie d'y retourner. Et en fait la réalité de ce métier-là, c'est que plus tu le vis et plus t'as envie de te mettre dedans et plus t'as envie de vivre ce côté un petit peu machine émotionnelle. Et comme tu le dis aujourd'hui, je suis qu'en national et donc
avec tout le respect
l'exposition. Non, mais attention, l'exposition médiatique n'est pas la même qu'un Julien Stéphan ou qu'un entraîneur de Ligue 1. Et donc j'ai pas connu encore ce moment-là, mais pour l'instant j'essaie de vivre ce métier-là avec une immense passion, une immense détermination, et j'ai pas l'impression de ressentir cette logique de névrosé. Par contre, l'année dernière, j'ai eu un moment au mois de mars où, ouais, tu sens que la charge de la pression d'une montée et la charge qui repose sur tes épaules, elle est importante et t'as besoin de prendre soin de toi. On le dit pas assez, mais un entraîneur, s'il prend pas soin de lui au bout d'un moment, ça devient compliqué. T'as besoin de t'évader, t'as besoin de trouver des moments où tu sors de ce contexte pression, enjeu, objectif, équipe, pour que tu penses à autre chose, pour avoir la lucidité d'esprit et surtout la clarté un petit peu dans ton cerveau pour justement faire les bons choix, ouais, bien sûr.
Alors avant qu'on parle de ton avenir, Habib, hein, c'est une des questions qu'on va te poser ce soir et que beaucoup se posent aussi. Il y a beaucoup de messages. Hein, Habib, viens à Marseille, on te veut à Marseille absolument. La pression sera pas la même, certes, mais ton cœur est marseillais. Justement, Kevin parlait tout à l'heure de ton travail de consultant également. Depuis 2013, t'es chez Canal+. Les émissions, les gros matchs de Ligue des Champions. Tiens, d'ailleurs, pas mal de supporters parisiens qui nous ont dit à RMC, dis-lui comment il commente les matchs du PSG. Parce que t'as ceux qui adorent Habib Bey en consultant, et puis t'as les Parisiens qui disent mais attends, c'est un Marseillais, c'est pas possible.
Bah ouais, mais pourtant, les Marseillais, ils disent que c'est un Parisien là, maintenant.
Ouais, maintenant les Marseillais me disent que je suis Parisien, et en fait je pense que j'essaye toujours d'être le plus juste possible, et vraiment en fait ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand je commente le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de logique d'être supporter de l'OM ou l'attachement à l'OM. En fait, j'ai pas cette. Par exemple, on a Eric Dimeco qui a décidé de ne pas commenter le Paris Saint-Germain parce qu'il dit que lui, par rapport à ce qu'il ressent, il aurait l'impression de pas être vrai. Moi, je ressens pas ça parce qu'en fait, au fond, quand je suis consultant, je suis pas supporter, je suis pas ennemi de qui que ce soit. Et en fait, c'est mon boulot et c'est surtout qu'en fait, mon objectif, c'est de faire partager une passion. On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé. Quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG, vous commentez le but de Benzema avec la « oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous ne faites pas correctement votre métier ». Et ce jour-là, ce que je ressens, c'est que je ne me soucie pas de savoir qui marque. Je suis en train de vivre un moment hors norme de football, et comme vous le vivez devant votre télé, sauf que moi, je suis dans un stade où il y a 70 000 personnes, que j'ai tous les socios du Real qui sont là face à nous, et en fait, on vit un moment d'exception footballistique. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain. Et c'est pas mon rôle. C'est peut-être le rôle du journaliste, mais c'est pas du tout le rôle d'un consultant. Donc, on peut nous reprocher plein de choses, mais moi, personnellement, je vais vous le dire, hein, je serais très content, et j'ai pas peur de le dire, que le PSG gagne la Ligue des Champions pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe française. Je suis ni pour le Barça, je suis ni pour le Real. La seule chose qui est, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon cœur. Et tout le monde sait où est ma préférence. Mais par contre, d'aujourd'hui me dire que je suis un consultant qui n'aime pas le PSG, franchement, vraiment, écoutez les.
C'est un truc que t'entends, ça. C'est un truc que
t'entends. Oui, je l'entends. Oui, mais après, je suis pas là pour satisfaire.
Bien sûr. Si tu rentres là-dedans, t'as pas fini. Franchement, le clubisme, on le connaît. Ça veut dire que quand tu dis un truc contre l'OM, t'es contre l'OM. Quand tu dis un truc contre Lyon, t'es contre Lyon. Ah, ça va, franchement.
En fait, si tu commentes mal comme ça, t'as pas fini. Aujourd'hui à l'OM, ou mon détachement par rapport au Paris Saint-Germain. En fait, mon métier, de consultant, il est fait pour transmettre la passion que moi je ressens au stade, avec le côté le plus pur possible. Et d'ailleurs, je vois que Julien Cazard s'en amuse. Mais la dernière fois, il le disait, il dit oui, t'as mis un blanc après le but de Kylian Mbappé. Oui, mais le rôle d'un consultant, c'est surtout de pas parler sur l'émotion du stade. C'est de parler après. Donc, c'est des petites choses qui font que, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à commenter les grands matchs parce que c'est aussi ma matière en tant qu'entraîneur.
Alors, c'est intéressant, ça, justement. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Vas-y,
Mais Habib, par rapport à ton rôle de consultant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, t'as pas une pression démesurée médiatiquement avec le Red Star au national. Par contre, ton rôle de consultant clive énormément. Je pense que tu as entendu ou tu as lu. Est-ce que il y en a beaucoup qui t'attendent au tournant par rapport à ça? Alors c'est ça, Habib Bey, il y a le consultant, le ton professoral, etc. Ouais. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ce rôle de consultant t'a servi dans ton rôle d'entraîneur? Est-ce qu'il t'a desservi? Est-ce qu'en termes d'image, tu ressens cette image-là? Est-ce que ça te met une pression? Est-ce que tu t'en fous royalement? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes? Voilà, et moi ça m'intéresse, oui, ce côté-là, parce que aujourd'hui quand tu parles en bien d'Habib Bey, c'est ouais on verra bien, c'est de la nationale ou ouais d'accord, n'en faites pas trop. Il y a ce côté-là et puis il y en a qui kiffent aussi, hein, mais globalement on sent qu'il y a une petite attente par rapport à ça, par rapport à ce que tu fais à Canal depuis longtemps.
En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je suis consultant, je ne suis pas entraîneur. Et quand je suis entraîneur, je ne suis pas du tout consultant. Les deux images ne peuvent pas aller ensemble. Après, que les gens fassent un rapport par rapport à ces prises de position, ces certitudes, ce côté un peu, on verra quand il prend une équipe, en fait, ça ne m'anime pas. Et j'y pense même pas. Je ne vais pas dire que je m'en fous royalement parce que j'ai du respect pour les gens qui ont un avis. Et les gens ont le droit d'avoir l'avis qu'ils veulent sur moi, sur ce qu'ils pensent de moi en tant que consultant, ce qu'ils pensent de moi en tant qu'entraîneur. Mais la réalité, c'est que t'as beaucoup de gens, et tu le vis aussi, Walid, t'as beaucoup de gens qui veulent déterminer ton avenir, ta trajectoire, ce que tu dois faire. J'ai des gens qui me disent pourquoi la double casquette, mais au fond, je vois pas ce que ça leur coûte dans leur vie. En fait, c'est des choix qu'on a personnels, et au fond, ces choix-là, on les assume. Si demain, ce métier de consultant m'amène à vivre un moment dans mon métier d'entraîneur qui sera difficile, et que, bah, comme tout entraîneur, je suis amené un jour à être mis de côté par un club, en fait, la réalité, c'est que ça va m'impacter moi. Ça n'impactera pas celui qui a un avis.
Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut, à un moment donné, par rapport au club et aux décideurs et aux gens qui sont susceptibles de te nommer et de te proposer un job, se dire, il est pas, en fait, il n'est pas 100% dedans, il a cette double casquette. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à le faire longtemps?
Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose qui a été défini avec mon club, le Red Star, et qui n'existerait pas si demain Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, c'est impossible.
Ça veut dire que oui, t'arrêteras cette casquette-là de consultant.
Ouais, exactement.
Qu'il arrive en Ligue 2.
En fait, mon contrat, il était en cours à Canal, et ce que j'avais défini avec le Red Star, c'était de dire je ne peux pas rompre un contrat que j'ai en cours, et surtout dans une chaîne, une maison avec qui j'ai beaucoup d'amitié, et surtout qui m'a fait confiance. Donc je continue. J'ai beaucoup réduit. Je fais que 15 prestations à l'année. Je fais que les matchs de Ligue des Champions. Je fais plus d'émissions. Je fais plus le CFC. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que les gens doivent comprendre une chose, c'est que la matière qu'un entraîneur a, jeune entraîneur comme moi, à aller commenter un Barcelone PSG, un Real City, un City Chelsea, ou ce que vous voulez, c'est énorme. Et les gens doivent comprendre que moi, quand je vais commenter des matchs comme ça,
je travaille en fait.
Je travaille. Et je prends des notes. Alors attention, je
discute avec les coachs. Avec...
Bien sûr, t'as des accès privilégiés de discuter avec des joueurs, d'échanger avec des coachs. Ça peut durer 5 minutes. Je vais te donner un exemple. J'ai discuté il y a 5 ans, 6 ans de ça avec Jurgen Klopp. Ça a duré 7 minutes. C'était un Leicester Liverpool et Sadio Mané était à Liverpool et je vois Sadio à la fin du match et je dis à Sadio, alors comment ça se passe avec Jurgen Klopp? Et il le voit, il dit boss, come. Et j'ai discuté 7 minutes avec lui. Tu te rends compte le privilège pour un jeune entraîneur en formation de pouvoir discuter 7 minutes avec Jurgen Klopp, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ça, les gens ne le voient pas. Mais moi, c'est des choses que je quantifie aujourd'hui et qui sont pour moi un accès privilégié grâce à ce métier de consultant. Après, comme le dit Jennifer, on fera toujours ce rapport-là. Et bien sûr que plus tu vas monter de niveau... Et bien sûr,
tous tes commentaires seront scrutés,
non, mais c'est surtout,
aussi.
Ça sera incompatible. Mais
et en plus, c'est compatible.
Ça sera incompatible.
En termes de rythme, bien
sûr. Tout le monde le sait, Canal le sait, et moi je le sais.
J'ai une dernière question là-dessus.
Et on fait une pause.
Est-ce que justement, par contre, dans l'autre sens, le fait de devenir entraîneur, ça a changé la façon dont tu étais consultant?
Oui, forcément, ça te fait évoluer. Ça te fait évoluer dans la difficulté. J'avais dit une phrase un jour, elle avait été un peu prise de. Ah, il a trop d'ego. J'avais dit, l'avantage que tu as en tant que consultant, c'est que tu es le troisième entraîneur des deux entraîneurs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que tu te positionnes, tu identifies les rapports de force, tu essaies de voir les solutions que peuvent apporter les entraîneurs. Et forcément, on a des avis tranchés. Si aujourd'hui, tu commandes que ce que tu vois,
on est d'accord.
C'est pas intéressant. Nous, on doit avoir à un moment donné de l'anticipation. Il va se passer ça. On doit se mouiller un petit peu. Par moment, on se trompe tous. Mais
comme les entraîneurs se trompent des fois.
Voilà. Et c'est ce que moi, je vis et forcément ça m'a fait évoluer d'une dans mon métier d'entraîneur parce que mais ça m'a fait évoluer aussi dans mon métier de consultant sur des scénarios, sur des choix d'entraîneurs.
Des fois ici, Nico Jamin me disait ah depuis que t'as passé ton diplôme d'entraîneur t'es moins dur avec les entraîneurs.
Ah oui, c'est dommage.
Mais ça,
maintenant, on va se poser la question, t'as double casquette aussi parce que
ça t'amène aussi.
Maintenant, t'es DS maintenant, donc c'est encore pire.
Ça t'amène à une forme de réalité et quand t'as vécu une situation, même si c'est pas le très haut niveau ou c'est pas la Ligue des Champions, quand t'as vécu une situation comme entraîneur, comme dirigeant ou quoi. Ben, ça te ramène aussi à une forme d'humilité, oui, t'es obligé. Ou alors sinon, t'es pas honnête.
Tu connais la réalité. Pause, on revient dans un instant. La question de l'avenir, Habib Bayon, on va te la poser, Habib, tu le savais en venant ici, forcément, Red Star, ou ailleurs, en Ligue 2, en Ligue 1. Il y a une hype Habib Bay, forcément, dans les médias et également dans certains clubs français. On va poser la question dans un instant. Habib avec Oulé Dacharchour, Kevin Diaz et Jennifer Madelevic. Vous écoutez RMC, c'est Génération After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Oulé Dacharchour et Jennifer Madelevic. Merci d'être avec vous sur RMC, les 20h40, avec notre invité, Habib Bey, qui est avec nous ce soir. On a parlé de ton métier d'entraîneur, ton quotidien également, ta casquette de consultant aussi. Parlons de ton avenir aussi, Habib, c'est important. Il y a beaucoup de supporters du Red Star et d'autres clubs. Bon, je vais le dire. Hein. Ce nombre de supporters marseillais sur le chat qui disent viens à l'OM. Si Fonseca vient pas, viens à l'OM. Beaucoup de spéculation, je disais, parce que c'est vrai qu'il y a, t'as le vent en poupe, clairement, depuis la montée et même avant. Nous on sait ici que tu as été approché aussi par Brest il n'y a pas si longtemps que ça, notamment tu as été aussi approché par Lyon,
oui.
Quand Laurent Blanc est parti, tu confirmes tout ça?
Oui, c'est Brest, c'était avant Lyon,
oui.
Et
Brest,
après,
avant Eric Roy,
c'était avant Eric Roy en fait, c'était, ouais. C'était pendant le moment où ils ont pris Eric Roy
et Lyon c'était avant Grosso
ouais.
Avant Grosso. Et puis, un peu partout, on lit que Reims aussi s'intéressera à toi en cas de départ de Will Steel, que Lens s'intéresse à toi en cas de départ de Franck Haise. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Déjà, la question de base, c'est simplement de se dire, est-ce que tu veux continuer avec le Red Star pour découvrir la Ligue 2? Est-ce que ta décision est prise?
Non, pour l'instant, non, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que quand on s'est vu avec le président l'année dernière, on s'est dit, on va au bout du contrat, pour deux raisons. C'est que si le club ne montait pas, il n'y avait pas de situation à continuer avec moi, parce que l'objectif n'aurait pas été rempli deux saisons de suite. Même si je pense que l'année dernière, c'était pas l'objectif prioritaire, c'était d'amener le club à essayer de monter. Mais malgré tout, il fallait monter cette année. Et on s'était dit, on se verra en fin de saison. Donc je vais voir mon président là dans quelques heures pour discuter déjà un petit peu du projet futur. Mais ce qui est sûr, c'est que, je l'ai toujours dit, j'ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m'ont sollicité, c'est aussi un moment où moi je me pose la question de savoir si c'est pas le moment d'aller au plus haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que j'irai pas entraîner un club de Ligue 2 autre que le Red Star. J'ai pas d'intérêt à changer de club sur la division de la Ligue 2 puisque je connais mon club, je sais comment il fonctionne. On va discuter surtout du futur projet, quelles sont les ambitions du club, parce que je m'en cache pas. J'ai des ambitions et donc j'ai dit à mon président, donc on va échanger. Et j'ai la liberté aujourd'hui de choisir mon avenir. Donc forcément, je vais écouter le projet du Red Star. Mais quand vous êtes ambitieux, vous avez envie d'aller au plus haut niveau. Et donc, je me pose la question aujourd'hui sur mon avenir. Mais je n'ai pas la réponse encore. Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Il faut que je discute avec mon président. Il faut que je discute avec les investisseurs, avec le club. De façon à avoir une vision bien claire de ce que veut faire le Red Star en Ligue 2 et dans les prochaines années. Pour prendre la meilleure décision pour moi et mon avenir.
Walid, et après Jen.
Moi, je suis subjectif. Hein, j'aimerais qu'il reste au Red Star, hein, bien évidemment.
Oui, évidemment.
Mais parce que je pense qu'il est, je vais pas dire dans un cocon, mais il est bien au Red Star. Lui, tout à l'heure, il l'a dit. Ils lui ont laissé du temps et je trouve qu'il travaille avec des très très bonnes personnes et que la Ligue 2 pour son ascension, ça pourrait être une très très bonne chose parce que je trouve qu'Habib progresse d'année en année et je l'ai répété, cette année c'est un meilleur coach, un bien meilleur coach que l'année d'avant et je pense que l'année prochaine aussi. Mais moi la question que j'ai envie de te poser, Habib, c'est en fait qu'est-ce qui va déterminer ton choix? Parce que on l'a dit, il y a quelques sollicitations. S'il y a,
il vient de te le dire.
Hein,
il vient de te le dire.
Laissez reposer. Vas-y,
excuse-moi. Excuse-moi.
Vas-y, Walid.
Parce que on vient d'expliquer qu'il y avait des sollicitations, s'il y avait des départs de coach notamment, mais on connaît le football, on sait comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce que c'est finalement les opportunités que tu vas avoir, notamment en Ligue 1 ou ailleurs, qui vont faire que tu vas abandonner le Red Star ou non? Ou c'est véritablement les garanties que le Red Star va te donner?
Alors déjà, ce ne sera pas un abandon parce que je suis en fin de contrat et ce contrat-là, on l'a respecté jusqu'au bout entre le club et pour moi. La deuxième chose, c'est encore une fois, je l'ai dit, c'est que quand tu es ambitieux et quand tu as cette ambition-là en tant que coach, tu veux entraîner au plus haut niveau. Et aujourd'hui, la réalité du plus haut niveau, c'est, j'estime que le plus haut niveau est la Ligue 1. Mmh. Ça ne sera pas en fonction des opportunités parce que je l'ai dit, ma communication sur la deadline et on l'a vu avec le président, ça sera juste après Versailles. Donc le Versailles, c'est le 3, donc on va communiquer aux alentours du 6-7 mai pour que le club, si au cas où je ne continue pas, puisse s'organiser pour à un moment donné préparer l'avenir et surtout pour qu'on se donne les moyens à un moment donné de discuter pour savoir quel est le projet futur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai toujours dit au Red Star, j'écouterai le projet et ensuite je prendrai ma décision. Le projet aujourd'hui, je vais être très clair avec toi, Walid, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que vont faire les investisseurs dans le futur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui s'inverse et on décide de rajeunir l'effectif, de développer des jeunes joueurs? Tout ça va aussi influencer ma décision. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir tous ces éléments-là pour prendre la bonne décision.
Et ça marche pour une proposition d'un club de Ligue 1 qui viendrait dans une semaine. Tu as besoin de connaître le projet. Ou toi,
mais ça sera la même chose.
Une Ligue 1 arrive, qui va?
Mais je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas trahir de secret. Quand on a discuté avec Brest, j'ai à un moment donné identifié le fait qu'aller tout seul à ce moment-là à Brest sans y aller avec mes adjoints, c'était quelque chose que je ne voulais pas en tant que jeune entraîneur.
Voilà.
C'est pas que je ne voulais pas du projet de Brest, c'est que quand on a discuté avec Grégory Lanesi, on s'est dit, il m'a dit, pour l'instant, je préfère que tu viennes tout seul. Et moi, je ne me voyais pas laisser mes adjoints avec lesquels j'avais commencé une aventure, et donc j'ai décidé de rester au Red Star, et j'ai continué mon aventure. Donc, c'est écouter, bien sûr, les projets qui amèneront une attention sur mon profil, mais une fois que j'ai écouté le projet du Red Star. C'est ça qui est.
En fait, ce que je veux dire, jusqu'au 3 mai, tu n'auras pas de sollicitation d'en haut.
Mais je peux très bien aujourd'hui ne pas continuer au Red Star sans avoir de nouveaux projets.
Voilà.
Oui, mais moi, j'ai une question un peu polémique pour toi. Après, j'imagine qu'elle ne sera pas facile à me répondre. Mais tu fais partie d'une structure multiclub. Ton actionnaire connaît des difficultés judiciaires énormes. Il y a des procès partout aux États-Unis pour corruption, pour racket. Ils ont des dettes partout. Ils cherchent de l'argent partout. Est-ce que pour toi, c'est aussi un climat qui peut poser question pour justement le projet de la saison prochaine? On sait qu'ils essayent de trouver le financement pour finaliser Everton, que du coup, bah, c'est tous les autres clubs de la galaxie qui en pâtissent. J'imagine que le Red Star aujourd'hui, c'est quand même des questions qui vont se poser et je ne sais pas si tu as les réponses aujourd'hui.
Alors j'ai un avantage, c'est la première chose, c'est de ne pas connaître tout ce que tu viens de dire de la part de mon actionnaire, c'est-à-dire toutes ces rumeurs ou toutes les choses qui sont établies.
Voilà, mais il faut lire les enquêtes dans Josimar qui sont.
T'as bien vu, j'ai dit ou tout ce qui est établi. J'ai dit rumeur ou tout ce qui est établi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai le privilège de pouvoir discuter directement avec Josh Wander, qui est donc le propriétaire de 777 et donc propriétaire du Red Star. Et donc, je vais également écouter ce qu'a à me dire l'investisseur prioritaire aujourd'hui au Red Star. Et donc, tous ces éléments-là, de toute façon, vont être abordés. Donc, dans un premier temps, avec le président Patrice Haddad. Ensuite, avec les investisseurs, mais également avec mon directeur sportif, parce qu'il y a tout un club qui doit travailler sur le projet futur. Mais ce que tu dis, si c'est vrai, bah, je poserai les questions qu'il faut. J'essaierai d'obtenir les réponses qu'il me faut pour savoir si je repars dans un projet qui est équilibré et ambitieux. Parce que je l'ai dit dans ma conférence de presse, donc j'ai pas de problème à le dire. Si demain, je dois repartir au Red Star en Ligue 2, je te dis pas que je veux une équipe pour monter tout de suite en Ligue 1, mais je veux qu'on soit en capacité de construire une équipe qui très rapidement sera en capacité d'aller jouer les premiers rôles en Ligue 2. Maintenant, ça se définit pas à coup d'argent, ça se définit pas à coup de parole, mais pour l'instant, on a une structuration.
Est-ce que comme dans certains groupes, il y a tous les groupes fonctionnent différemment. Il y en a qui sont totalement indépendants club par club sur le recrutement. Il y en a qui par contre ont une ligne directrice et doivent tout faire valider par, on va dire, une maison mère entre guillemets. Comment ça se passe chez vous ?
Rien ne m'a été imposé. Les 5 joueurs qu'on a cette année, je les ai tous choisis, je les ai tous identifiés. Ils m'ont été soit apportés par mon directeur sportif, soit par la cellule de recrutement, soit des joueurs que moi j'avais identifiés dans la division. Je prends un exemple de Joachim Ackmayer. Je veux Joachim Ackmayer. Joachim Ackmayer, il est observé, il est regardé par Reda Hamash, il regarde la faisabilité du dossier et Joachim Ackmayer arrive au Red Star. On a la chance et j'ai la chance, et c'est ce que je dis très souvent et j'en ai déjà parlé avec Walid, tous les joueurs qui arrivent au Red Star ne m'ont pas été imposés, sauf Paolo Gozzi. Il m'est imposé par un prêt du Genoa, il arrive au Red Star, mais quand il est imposé, c'est-à-dire on me dit, est-ce que ça te pose un problème que pour le troisième défenseur qu'on recherche, c'est-à-dire c'était un défenseur qui au départ devait pas être titulaire chez nous, Il me dit, est-ce que ça te dérange si on prend un joueur de la Galaxie 777? J'ai dit, s'il est bon, non. J'ai regardé Paolo Gozzi, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai pas pu aller le voir en live, mais j'ai regardé ses vidéos. Et oui, j'ai validé son arrivée.
C'est ça.
Si je n'avais pas aimé
t'aurais
le joueur,
refusé,
si je n'avais pas aimé le joueur, il serait jamais venu. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'ingérence par rapport à ça. Ça se passe très très bien avec l'investisseur. Après, ce que tu dis, Jen, moi vraiment, pour l'instant, je suis très loin de ça sur l'aspect politique. Et si tu le dis, c'est que tu as vérifié tes sources et tu
moi,
les avances pas.
Je te conseille de lire les enquêtes de Philippe Auclair qui sont très intéressantes.
Un ancien de la maison, Philippe Auclair.
Et je le ferai et je me poserai les bonnes questions au moment de prendre les décisions pour mon avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, moi, j'ai travaillé vraiment avec une sérénité et surtout pas d'ingérence de la part de l'investisseur. Et ça s'est toujours très très bien passé.
Tu restes avec nous, Habib. Plein de questions à te poser, même des appels au 32-16, bien sûr. Je vais quand même te poser la question dans un instant sur l'Olympique de Marseille, ton regard sur la saison de l'OM et ton affection pour ce club particulier. Reste avec nous, c'est Génération After RMC avec Kevin, Walid, Jennifer et Habib Bey, notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Jennifer Mendelevitch, merci d'être avec nous. RMC 20h53. Tout à l'heure, on parlera de Pierre Sage, beaucoup de questions aussi. Pierre Sage, ancien adjoint pendant un an et demi à tes côtés, Habib Bey, notre invité au Red Star. T'as deux adjoints qui sont partis en Ligue 1 d'ailleurs cette année. Ouais. Ça donne des idées, bien sûr.
Il y a des sollicitations au Red Star quand même. Bah, ça bosse bien.
Ouais, ça veut dire que ça bosse bien, on a des bonnes idées et on bosse avec des bons.
Walid Acharchour bientôt va signer en Ligue 1 aussi.
Non, mais qui reste là, Walid?
Non, non, moi je suis très bien là.
Il est très bien ici, il aime bien son confort, Walid. T'as vu comme il est posé tranquille avec sa bouteille d'eau là.
Bon, on me laisse le temps. On me laisse le temps pour bosser.
Pour travailler tranquille.
Je suis sur un projet de 3 ans.
Bon, question directe en quelques mots. Est-ce que Marseille, c'est un rêve pour toi?
Forcément, quand tu as été capitaine de l'Olympique de Marseille, quand tu as passé 4 ans comme j'ai passé à l'Olympique de Marseille, c'était mon club de cœur quand j'étais petit. Lorsque j'en suis devenu joueur et encore plus capitaine, ça a été. Ouais, ça a été clairement l'aboutissement de ma vie de footballeur. Je pensais jamais quitter ce club-là. Je l'ai quitté en 2007. On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage. Mais en fait, personne ne sait si ça arrivera. La réalité, c'est que c'est un club exceptionnel, passionnant, excitant. Mais par contre, il faut être prêt pour un club comme ça. Et ça, il faut vraiment être sûr de ne pas voir l'aspect émotionnel dans une logique. Si la décision un jour devait arriver, elle ne devrait pas être dans cette logique que je vous décris là. C'est-à-dire qu'il faudrait occulter tout ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire le passé de joueur, cet aspect-là. Tout...
Parce mais tu connais l'environnement Marseille.
Oui, non, l'environnement, je le connais, mais l'environnement, il évolue. Et la réalité, c'est que c'est un très gros club avec une énorme pression. Et le jour où vous faites ce choix-là, je ne vous dis pas que je ne suis pas en capacité de le faire aujourd'hui. Mais la réalité, il faut vous poser les bonnes questions. Et pas cette question-là émotionnelle de passer marseillais, de passer de joueur. Je pense qu'il faut juste être dans la logique de dire est-ce que c'est le bon projet pour moi. Ce qui est sûr, c'est que c'est un club exceptionnel. Et que je pense qu'il est impossible, et là je vais vous donner un élément, c'est qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci lorsque vous êtes l'entraîneur que je suis, forcément.
Même après tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire même en prenant en considération que tu peux considérer ne pas encore être prêt, t'irais quand même?
Et bien sûr que oui. Je peux pas dire non.
Et ça passe pas deux fois, Marseille.
T'as dit que le train passait pas
exactement,
deux fois.
Exactement, Jennifer.
Non, mais j'ai dit ça.
Marseille.
Aujourd'hui, positionne-toi dans cette logique-là. Quel entraîneur va dire non à Marseille?
Bien sûr. Et est-ce que tu pourrais... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que tu pourrais refuser un club qui après pourrait t'empêcher d'entraîner l'OM? Tu vois ce que je veux dire? Non. Un gros rival de l'OM.
Non, bah non, il y a eu
Lyon.
Parce
qu'on a eu cette histoire avec Zidane, non, est-ce qu'il irait au PSG?
Il y a eu Lyon, et quand il y a eu Lyon, j'ai pas demandé à mon club de partir, j'ai demandé à mon club d'écouter. Ils ont écouté, il y a eu discussion entre les deux patrons, donc John Textor et Josh Wander. Il s'est trouvé que Josh Wander ne voulait pas me libérer, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de proposition financière, puisque de toute façon, il y avait veto sur mon départ du Red Star. J'ai respecté ma logique de contrat. Je ne suis pas allé à l'encontre, même si c'était un club très attractif, je ne suis pas allé à l'encontre de ma direction. Et je pars du principe que tu mérites ce que tu as au moment venu. Et si un jour l'OM se présente, je pense que c'est un club dans lequel tu ne peux pas dire non. Mais je dis encore une fois, et les gens doivent comprendre que quand tu prends un club comme celui-ci, il faut être prêt.
Eric est avec nous.
Juste avant, Eric, sur le facteur émotionnel, parce qu'on a donné beaucoup de qualités d'Habib. Moi, je trouve que ta marge de progression, c'est sur le facteur émotionnel, et notamment la gestion avec les arbitres. Est-ce que tu...
Je me suis calmé depuis 4 mois.
Tu t'es calmé depuis
mon carton rouge à Dijon.
Oui.
Depuis mon carton rouge à Dijon, il le sait. Oui. Je parle plus avec les arbitres. Ouais. J'ai arrêté. Je me suis dit, ça ne t'apporte rien. Ça te coûte.
C'est dur. Ouais, non, vraiment. C'est un effort à faire.
Mais, tu le vois. Oui. J'ai arrêté.
C'était aussi surprenant. Un soir, j'étais à Bauer et je vois en fait Habib Bey, parce que moi, je suis tout en haut, et je vois Habib Bey passer comme ça. Il me serre la main. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Non, mais c'est mon troisième jaune, je suis suspendu. Ouais. Alors qu'il m'avait dit juste après Dijon, moi c'est terminé, Walid, les rouges, etc. Et donc, est-ce que sur ça, parce que t'es quelqu'un de très passionné sur le terrain, et tu parles de Marseille, mais ou autre, hein, au très très haut niveau, parce que tu seras scruté. Quand ça va bien, c'est très bien. Quand ça va un peu moins bien, quand il y a des voilà une dynamique négative, est-ce que c'est ancré en toi, tu peux pas faire autrement, ou parce qu'il y a aussi un jeu, on veut se faire abîmer aussi du côté des arbitres, donc est-ce que du côté des arbitres, ouais, pas que du côté
mais
des arbitres.
Ça, pourquoi
si, moi je l'ai ressenti.
Mais pourquoi en fait?
Je l'ai ressenti. Il y a
à quoi ça tient ça?
Après attention, il a aussi sa part.
Tu dirais que t'es clivant un peu ou pas?
Oui, j'ai ma part de responsabilité. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Comme ça, les gens disent, voilà, il s'est mis en avant, il a dit qu'il était responsable.
Mais c'est vrai.
Mais en fait,
mais
tu crois pas.
Walid, une fois, si, j'y crois.
Non, mais maintenant, une fois qu'on s'est dit ça,
j'ai aussi entendu le consultant de Canal+, tais-toi, arrête de parler, toutes ces choses-là de la part de certains bancs, je dis bien certains bancs, ou certains acteurs du jeu. Donc, je dis juste que, comme le dit Walid, c'est à moi de faire la part des choses et c'est pas aux autres de s'adapter, c'est à moi de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Et j'ai remarqué une chose, et mon préparateur physique m'en a parlé récemment, il m'a dit, depuis que t'es plus calme par rapport à tous ces éléments-là, c'est mieux. Et je m'en rends compte que c'est mieux. Donc je dois grandir par rapport à ça. Et il y a une chose aussi que je vous dis, et là où j'ai énormément progressé, c'est que moi, la défaite, elle me consumait à un point qui était très difficile à accepter et à repartir. Et en fait, un jour, j'ai eu la chance de discuter avec Arsène Wenger et qui m'avait dit une chose très intéressante, qui m'a dit, le lendemain, quand t'as perdu, tu te lèves, t'as toujours perdu. Et il n'y a rien qui change. Donc il faut, quoi qu'il arrive, te régénérer pour être en capacité, le lendemain, de repartir avec de la fraîcheur. Et je pense qu'avec le temps et avec l'expérience, et c'est l'expérience qui vous amène ça, j'ai appris à mieux gérer cette logique de défaite. Cette année, on a eu la chance de ne perdre que 4 fois. Donc on l'a peu vécu, mais voyez la montée en Ligue 2, on l'a vécu avec une forme de...
Oui, parce qu'il y a une défaite, la première à Bauer de la saison.
Je pense qu'on grandit au fil de notre vie d'entraîneur, et chaque jour on devient meilleur, et je pense que Walid l'a dit, et on apprend. Mais bien sûr que si demain je vais dans un contexte un petit peu plus sulfureux, un petit peu plus de pression, il faudra que je sois en capacité de canaliser cette énergie qui est débordante. Je suis un coach très passionné qui fait beaucoup de kilomètres dans sa zone technique.
Ah, t'es un Sampaoli alors?
Tu vois, tu serais proche de qui, d'un Sampaoli ou d'un...
T'as mis le GPS ou pas?
Non, mais je fais beaucoup de kilomètres, ouais, quand même. Un peu moins cette année, mais je fais beaucoup de kilomètres. Après, on a un projet de jeu très offensif. Donc,
toi, tu l'es aussi sur le côté.
T'as envie de faire 2 mètres dans le terrain pour.
Moi, je t'ai vu.
Il initie le propre pressing.
Ouais, c'est.
Et puis, quatrième, puis disait technique, s'il vous plaît, il le regarde même pas.
Non, mais.
Tu peux le faire en national, mais en Ligue 2, il t'entend plus.
Nico, il est venu à Bauer.
C'est une des remarques que j'ai faites.
Ouais, c'est vrai. Il est venu.
Mais moi, j'aime ça aussi, tu vois.
Ouais, non, je kiffe très souvent ma technique et c'est très souvent ce que me disent mes joueurs.
Mais ça a des avantages sur l'équipe aussi, hein.
Ouais, ouais. Et je pense que ça donne bien de l'énergie. Après, bien sûr qu'avec le temps, tu te canalises un petit peu. Mais il faut que tu restes toi-même. Il faut surtout être soi-même.
Tu restes avec nous encore un petit peu, Habib, si tu le veux bien. On va parler de tes adjoints aussi. Mm-hmm. Je sais que t'es très fier de leur parcours aussi.
Très, très fier.
Alors, c'est Génération After avec Walid Acharchour, Kevin Diaz, Jennifer Madelevich. Vous nous appelez au 32-16. Eric sera là aussi parce qu'il nous attend depuis quasiment un quart d'heure. À tout de suite sur RMC.